Pour votre info est présenté par Desjardins.
Cette semaine, un autre coup fumant pour Coquette.
L'offre, on la trouvait extrêmement complémentaire, justement. C'est Francis qui a amené ça à la table, puis la minute que l'idée a germé, après ça, on a passé la fin de semaine à se texter, puis à se dire « Ah, waouh, ça pourrait être hot, etc., etc., etc. »
L'entreprise de prêt-à-cuisiner achète Menu Extra et poursuit sa croissance. On en parle avec les dirigeants des deux entreprises. Je m'appelle Laurent Therrien, bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. L'entreprise de prêt-à-cuisiner Coquette continue sa lancée. On apprenait la semaine passée que l'entreprise dirigée par Judith Fetzer réalisait la quatrième acquisition de son histoire en devenant actionnaire majoritaire de Menu Extra, qui propose des repas haut de gamme prêts à enfourner. J'aime beaucoup l'expression. Cette semaine, on vous amène dans les coulisses de cette transaction-là avec Judith Fetzer et Francis Blais. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Salut.
Salut.
Merci de nous recevoir.
Ça fait plaisir. Merci d'être avec nous en studio. Judith, re-bienvenue à Pour votre info.
Oui.
Tu es évidemment la fondatrice de Coquette. On t'a reçu la dernière fois, on était en 2021.
Mm-hmm.
Ça remonte déjà un peu. On parlait à ce moment-là d'hypercroissance.
Mm-hmm.
Est-ce que tu avais apprécié ton passage à notre micro?
J'avais adoré.
Ah oui?
C'était un excellent épisode, d'ailleurs, je crois.
Oui, c'était un excellent épisode. J'avais peur d'avoir été trop difficile avec
ben
toi.
Voyons, mais ben non, pas du tout. Okay. Non, justement, moi, ce que je me souviens de mon passage, et je ne l'ai pas réécouté récemment,
mm-hmm.
mais ce que je me souviens de mon passage, c'est qu'on avait abordé des questions qu'on me posait pas souvent.
Okay.
Fait que c'était pas... Tu sais, je suis habituée de répéter
les
quand même...
Les mêmes messages.
Les mêmes messages. Si on me pose les mêmes questions, ben moi, je répète la même affaire.
Bon, fait que je vais essayer de poser des questions différentes encore une fois. On parlait d'hypercroissance. Faut croire que t'as pas arrêté depuis. T'as continué, avec une année 2022 qui a été un petit peu plus difficile. On va en parler plus tard.
Mm-hmm.
Croissance plus modérée, disons, à 4 %. Mais des projets qui continuent à tout le moins.
Définitivement, oui.
Bon, merveilleux. Francis Blais, bienvenue à notre micro.
Merci.
Tu es le co-chef de Menu Extra. Ça vaut la peine qu'on remonte un petit peu le fil de ta bio parce que c'est super intéressant. Donc, tu as gagné Top Chef Canada en 2020. C'est la plus grosse émission de concours de cuisine au pays. Avant ça, tu as travaillé dans les cuisines de Maison Boulue. Tu as été chef au Mousseau. Tu as été chef dans un 2 étoiles Michelin à Copenhague, au Danemark.
Ouais.
Est-ce que j'oublie un morceau important de ta carrière? Ou,
En fait, j'ai fait plusieurs voyages. J'étais à Paris aussi, travaillé à Berlin. Puis le Mousseau, c'est une grande partie de ma carrière parce que c'est là que j'ai vraiment pu mettre toute ma créativité à contribution. Puis finalement monter ce qui était le 6e meilleur restaurant au Canada à cette époque-là.
Mm-hmm.
Fait que ça, j'en suis très fier.
Félicitations. Et là, donc, le dernier projet en lice, c'est Menu Extra. Explique-nous un peu le concept actuel, parce que le concept a un peu évolué fil des 3 dernières années. Ça a commencé plus par des expériences en personne. Et puis là, on est plus dans du prêt à enfourner. Je le dis, j'aime beaucoup l'expression. Donne-nous une idée de la formule et comment ça fonctionne.
Oui. Bien, ça a commencé, en fait, c'était comme vraiment... c'était un contexte très particulier. On était en pandémie.
Mm-hmm.
Puis nous, puis là, je parle d'un de mes partenaires... À l'époque, c'était Camilo qui travaille encore avec nous, qui est chef chez Menu Extra. Ben, on venait juste de gagner des compétitions, puis on avait le goût de continuer à partager notre cuisine, même si on n'avait pas le droit de se voir, déjà. Fait que là, on avait fait plein d'événements à nature plus caritative, sociale, où on aidait des amis restaurateurs. Puis on aidait à payer des coûts fixes, puis après, on remettait tous les sous à des causes. T'sais. Fait que ça, c'était très chouette. C'est vraiment comme ça que ça a parti. Puis je voulais juste le mentionner parce que c'était une belle façon de commencer cette aventure-là entrepreneuriale. Puis par la suite, dans cette envie-là de partager, on s'est dit, comment on peut pas garder notre qualité, des bons produits, des belles techniques, comme on sait les faire, bien les transformer, mais pour les partager avec le plus de monde possible. Puis c'est là qu'on a décidé de faire Menu Extra, la gastronomie à la maison. Fait que notre mission, c'est vraiment de rendre accessible tout ce savoir-faire-là à la maison, puis d'avoir une expérience comme au restaurant, mais dans le confort chez de chez soi, en toute intimité.
Donne-nous une idée de ce qu'il y a sur le menu en ce moment, par exemple.
Donc, le plat emblématique, ça a été mon plat avec lequel j'ai gagné Top Chef en finale. Je l'avais fait avec du pigeon à Top Chef, mais là, on a comme recréé le plat pour la maison. Puis c'est un pitivier de canard.
Okay.
Fait que là, ça, au centre, il y a un magret de canard, une terrine de foie gras, entouré d'une farce faite avec les cuisses des shiitakes fumés qui vont rappeler un petit peu le goût de lardon dans un pétillier traditionnel. Puis ça vient avec une sauce grand veneur avec un petit peu de groseille qui ajoute un petit peu de sucre, de l'acidité. C'est un plat très gastronomique qui peut sembler très complexe, mais tout le travail est fait dans nos cuisines. Puis à la maison, les gens ils ont juste besoin de le mettre au four. Ça prend 20 minutes, puis t'as un truc magique. Tu sais.
Combien ça coûte, juste pour donner une idée de la formule, là, quand on parle de haut de gamme, on veut dire quoi?
Haut de gamme, mais tout de même, pour ce genre de produit-là, où il y a énormément de travail, de savoir-faire derrière, beaucoup de temps qui a été mis dans le plat, reste tout de même accessible, d'après moi. On parle de 80$ pour deux personnes pour le plat. Puis ensuite, ben, y a les à côté, les desserts. Ils peuvent venir
c'est
se rajouter un accord, une bouteille de vin. Non, c'est ça.
80 pour le plat au complet, là, pour deux.
Pour deux, oui. C'est ça, pour un plat principal, pour deux.
Ben, c'est pas cher, je trouve. C'est du haut de gamme.
Ben, ça coûte pas j'aime mieux juste le mentionner, ça. Parce que ça dépend tout le temps de la perspective de chacun. Là, on s'entend, il y a une
non,
partie...
Aller au restaurant, ça coûte plus cher que ça. Entendons-nous, là.
100%.
Ou se lancer nous-mêmes dans l'aventure de faire un pitivier de canard.
C'est comment être ton pitivier de canard, Judith?
Il est de chez Menu Extra.
Alors, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment est-ce que Francis arrive sur ton radar, Judith, puis tu te dis à un certain point, je veux acheter cette compagnie-là?
Bien, en fait, ça a commencé vraiment plus d'apprendre à les connaître. Donc, durant cette même pandémie-là, nous, on a M. Bouchard, Alain Bouchard, qui est un investisseur chez nous, et on a un gros meeting à faire. Et ben là, nous, tu sais, Coquette n'a jamais arrêté ses opérations. On n'a jamais arrêté de travailler non plus en présentiel parce que justement, service essentiel, on doit continuer.
C'est de la nourriture, ça. Et se fait mal en télétravail aussi.
Voilà. Et là, ben, on veut recevoir M. Bouchard à l'usine. Et ben, on se dit, on va peut-être pas commander du double pizza, là, ou tu sais, puis on va pas faire nous-mêmes non plus la cuisine parce qu'on est à Ville-Saint-Laurent. Donc, on commence à essayer de trouver une solution. Puis là, c'est là qu'on tombe sur les gars de Menu Extra. Et moi, je les connaissais pas à l'époque. Ils viennent cuisiner pour nous. C'est un coup de foudre immédiat, vraiment. Et ben, tu sais, juste, vous l'avez entendu parler, décrire ses plats, la passion qui se dégage de cet homme-là. Donc, pour moi, ça a été un coup de foudre immédiat. Et ensuite de ça, ben nous, on a décidé, 6 mois environ plus tard, on a décidé de lancer une initiative qui s'appelle Classe de Maître chez Coquette. Et c'était vraiment dans le menu, donc dans l'abonnement chez Coquette. On offrait 12 repas concoctés par les meilleurs chefs du Canada. Et bien, définitivement, on voulait que ce soit Francis, Camilo et Alexis de chez Menu Extra qui lancent le bal. Donc
c'était fameux partenariat dont on avait parlé en 2021, qui sont au cœur du modèle d'affaires puis qui font qui sont une des clés de la différenciation de Coquette.
Définitivement.
Qui sont à l'origine de cette acquisition-là, finalement.
Voilà. Voilà, parce que même après ça, moi et Francis, on a fait cette initiative-là plus au niveau marketing. Mais après ça, côté affaires, ben Francis avait des idées, beaucoup d'ambition et des idées de grandeur. Et ben c'est là qu'il m'a contacté pour, tu sais, avec sa question, c'était comment t'as fait, toi? Donc, après ça, ça a été plus des séances de mentorat, mais très, très informelles. Donc là, je lui expliquais, bon, ben, la valorisation d'une entreprise, comment ça marche, le capital de risque, comment ça marche. Parce que justement, là, tu sais, Francis, à un moment donné, il m'a dit, moi, je veux bâtir le plus gros resto du monde.
C'est une belle ambition.
Et mais pour... c'est très imagé, parce que si on s'entend un restaurant, tu sais, il... Comme
il y a des meubles, il y a des chaises.
Il y a des tables, des chaises, des nappes, des verres et tout ça.
Puis il y a une limite de tables et de chaises.
Ouais.
Puis ben, nous, on avait le goût de le faire avec le plus de monde possible. Puis
avec le plus de tables et de chaises possible.
Puis ben, ça, c'est pas le choix de le faire chez les gens parce que là, c'est ça, les possibilités sont infinies.
Ouais. Est-ce que tu te considères comme un homme d'affaires ou est-ce que, bon, la valorisation d'entreprise puis le cash flow, puis c'est des trucs qui t'intéressent ou c'est des trucs dont tu veux te tenir le plus loin possible?
Ça m'intéresse beaucoup. Moi, en fait, j'ai grandi un peu là-dedans. Mes deux parents étaient entrepreneurs. À travers les réussites, les échecs, nous, on a tous vécu ça en famille, tu sais, puis on en parlait beaucoup. Puis je pense, tu sais, ben, ça doit être un petit peu dans mon sang, dans ma génétique, je veux dire. Veux pas, ben, tu sais, j'ai été élevé comme ça, fait que je pense comme ça aujourd'hui aussi. Puis, attends, je m'en allais où? Comme ça.
Ben, c'est parce que, donc, il y a l'ambition...
Est-ce que je suis un homme d'affaires?
Il y a l'ambition de faire des bons plats.
Ouais.
Tu sais, il y a l'ambition de servir la meilleure assiette, mais après ça, il y a l'ambition que ça devienne une business rentable aussi, puis qui grandit. C'est deux, j'imagine, deux mentalités qui peuvent pour certains, être complètement différentes, puis pour d'autres, ben, qui peuvent fonctionner?
En fait, à travers toutes mes expériences, puis pour moi, ça, c'était vraiment de la formation, travailler dans ces restaurants-là. Un gros... je donnais tout, puis je m'attendais en échange de pouvoir comprendre un petit peu, oui, comment la business fonctionnait, mais ramasser aussi un bagage culinaire, tu sais, intéressant, pour un jour pouvoir me partir en affaires, tu sais.
Donc, puis avoir c'était une déjà la vision.
Ouais. Avoir une entreprise qui est... qui était, comment on dit ça déjà en français, sustainable.
Ouais, qui peut durer dans le temps.
Ouais, c'est
pérenne.
Ça. Ah, ben, bon, merci.
Merci. Parce que
c'est la restauration, c'est une industrie très difficile, tu sais. Puis il y en a très peu qui traversent le temps, tu sais, avec leurs idées et tout. Fait que je me posais tout le temps la question, en fait, tu sais, comment ça pourrait fonctionner pour moi, tu sais. Mm-hmm. Puis à travers tout ça, ben, tu sais, j'avais ma blonde, puis on voulait avoir une famille. Puis ben, il y a des enjeux aussi en restauration parce que ben, on travaille le soir, fait que, tu sais, tranquillement.
Il n'y a pas de qualité de vie. En fait, il y a très peu de qualité de vie. Puis justement, tu sais, je pense qu'une des choses aussi qui te fait fondamentalement triper aussi, c'est justement la scalability puis un peu les ambitions de grandeur. Mm-hmm.
Mm-hmm. Alors, puis, j'ai eu des expériences très difficiles à Maisonboulu. En restauration, ce qui m'a mené un petit peu à faire un cours en entrepreneuriat au HEC, aussi entre Maisonboulu puis le Mousseau.
Quand tu dis expérience difficile, sur le plan de la gestion ou sur le plan de...
Sur le plan professionnel, horaire, okay. Tout donner au travail.
C'est un milieu qui reste difficile, ouais, que celui de la restauration haut de gamme. Je veux revenir à la rencontre et au moment où vous vous dites, dans cette ces séries de... séance de mentorat-là. Mm-hmm. OK, il y a peut-être un business case de fusion potentielle ou d'acquisition, mm-hmm, potentielle. Je veux le voir des deux côtés de la médaille. C'est-à-dire, Judith, quand tu regardes Menu Extra, bon, Francis est peut-être exceptionnel et extraordinaire, mais tu regardes aussi un modèle d'affaires. Vous êtes dans le prêt à cuisiner et dans le quotidien des gens. Mm-hmm. Ils sont dans le haut de gamme et dans le...
occasionnel.
Prêt à enfourner, là, occasionnel.
Le PAF.
Le PAF?
Nous, on fait du PAC, du PAM, et eux, ils font du PAF.
Du PAF. Bon. Alors, est-ce qu'à un certain point, tu te dis, je veux ajouter le PAF à mon PAC et à mon PAM?
En fait, c'est Francis qui, après quelques rencontres, qui nous a lancé ça. Okay. Et bon, j'ai fait un peu le saut sur le... Tu sais, j'ai fait, ah ouais, OK, parfait. Et l'idée, ça a pris 12 heures avant qu'elle germe vraiment dans mon cerveau. Puis en fait, ce que... J'adore la complémentarité, tu sais, c'est être en affaires, faut tu trouves des associés avec lesquels tu es complémentaire, tu sais, donc il y a quelque chose dans la complémentarité, puis nous, ben justement, on s'intègre dans le quotidien des gens, donc comment on leur livre avec l'abonnement, avec un produit qui est quand même simple, mais tu sais, qui a une belle expérience, mais les gens nous parlaient beaucoup, puis nous, on a, tu sais, on a une grosse database d'adresses courriel, de gens qu'on peut activer. On a après ça nos clients qui sont abonnés avec nous semaine après semaine. Et donc, ça fait quand même un pas pire écosystème où on peut parler avec des gens, donc contribuer à la croissance de d'autres verticales. Puis nous, ben, tu sais, on s'est... Tu sais, Coquette, ça a commencé comme un prêt-à-cuisiner, mais puis c'était vraiment ça, le business plan, le plan d'affaires juste pour les 5 premières années. Mais après ça, on a compris très, très rapidement que justement, pour avoir un modèle d'affaires pérenne, ben, il fallait se diversifier. Donc, c'est pour ça que l'année passée, on a lancé notre usine de prêt-à-manger. Ça, je pense que ça a été fait entre ma dernière ouais, présence chez vous. Et donc, c'est un autre secteur qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de croissance, qui a beaucoup de demandes de par nos clients. Mais justement, tu sais, par exemple, si tu veux recevoir ta belle famille à souper un vendredi soir, ben, on n'avait pas nécessairement l'offre pour faire ça. Tu sais, le back-end de Cookit est quand même très rigide. Ta date de livraison, ça va être soit du dimanche au mardi. Tu sais, le format, c'est soit du 2 portions, du 3 portions, du 4 portions. Fait que là, si tu veux recevoir pour 8...
Il faut t'achètes 2 paquets, ça devient compliqué.
Tu reçois pas la bonne... On livre pas le vin. Donc, l'expérience est fondamentalement différente. Puis justement, si tu veux, tu sais, l'offre... On la trouvait extrêmement complémentaire, justement. Fait que c'est... Donc, c'est Francis qui a amené ça à la table. Puis la minute que l'idée a germé, après ça, Ben, Francis était en Italie, moi j'étais à Chicago, puis on a passé la fin de semaine à se texter, puis à se dire, ah, oh, wow, ça pourrait être hot, etc. Puis à ce moment-là, tu sais, je pense que là, l'idée, elle avait quand même assez fait beaucoup de chemin dans nos. Puis nous, ben, tout le monde, tu sais, on a des associés, on a des investisseurs, on a un conseil d'administration. À tout le monde à qui on présentait cette idée-là, ça a été un coup de foudre immédiat aussi.
Ça a été paf.
Ouais, paf.
Francis, pourquoi vouloir te faire acheter? Ouais. Ça reste quand même pour un entrepreneur une grosse décision. Il y a un risque, aussi gentil puisse-t-il être chez Cookit, de perdre un peu du souffle de l'entrepreneur ou du feu de l'entrepreneur dans une structure qui devient plus lourde, justement, un CA, puis des comptes à rendre qu'on n'a pas si on est seul. Qu'est-ce que tu vas chercher avec ça? Est-ce que c'est un réseau de distribution? Est-ce que c'est des adresses courriel pour rejoindre plus de monde?
Effectivement, tu portes ton entreprise, puis on a bûché vraiment fort pour l'amener où elle est aujourd'hui. Fait que c'est pas rien de vendre une grosse partie puis de plus être majoritaire dans son entreprise. T'sais. Mais on l'a puis je l'ai fait parce que j'ai extrêmement confiance en Cookit. Puis on partage les mêmes valeurs aussi. Mm-hmm. Puis ça, je l'ai compris à travers la classe de maître, à travers le mentorat que Judith me donnait. Tout ce souci-là du détail puis de l'expérience client, ben on partage ça. T'sais.
Puis à travers le processus de la transaction aussi, mm-hmm. dans le sens que ben vous ne voulez pas faire une transaction, ça forge des liens, t'as des conversations, t'sais.
C'est où la limite? C'est-à-dire que bon, il va y avoir une certaine forme d'intégration ou de fusion parce qu'il y a des économies d'échelle, j'imagine, à aller chercher dans les cuisines mm-hmm. de Cookit. Ou on peut voir plein de liens possibles. Où est-ce que vous avez tracé la ligne dans le sable puis vous dites ça va rester dans les mains de Francis, le choix des recettes, par exemple?
Fait que moi, dans le fond, puis je sais pas si ça, c'était encore clair pour toi, mais tu sais, Menu Extra reste comme une filiale de Cookit. Mm-hmm. On garde notre site web, on s'occupe encore de toute la production.
Vous continuez d'exister comme deux marques
complètement
distinctes.
Différentes. Ouais.
Je le comprends bien. Mais dans les coulisses, Judith qui appelle puis qui dit ta recette, ça serait le fun que tu pousses ça. Elle détient quand même 70% de ta business demain matin. Mm-hmm. Il va falloir que tu l'écoutes.
Ben, je pense qu'on s'est entendu pour dire que toute la création allait. ça allait pas arriver, par exemple.
Ben, c'est ça, quand je parle de ligne dans le sable, ça, c'en est une qui est importante.
On est vraiment conscient, je pense que nos forces sont où. Puis, ben, je m'en allais là aussi avec ta question d'avant. T'sais, moi, je sais sont où mes forces. Je suis quelqu'un d'extrêmement créatif. J'ai bâti cette marque-là. Je peux faire des produits extraordinaires. Après, pour tout ce qui est la mise en marché, tout le back-end, ben eux, ils ont extrêmement d'expérience. Ils ont plein d'experts. Fait que Menu Extra, tu sais, oui, je viens de perdre une petite partie de la tarte, mais ça va être une gigantesque tarte. Ça va être la world record tarte.
J'adore la
vision. C'est super intéressant. Ouais. C'est l'opportunité-là.
Puis quand on... Justement, tu sais, Francis, il y a de cela 6 mois, tu sais, il étudiait les différentes possibilités qui étaient sur la table. Puis, bien, évidemment, il pouvait se tourner vers le capital de risque qui aurait pu soutenir son plan de croissance ou de trouver un partenaire chez Cookit. Puis, moi, ça a pris comme un peu de temps, mais après ça, je me suis remis dans les souliers de Judith. Ça fait presque 10 ans qu'on est en affaires, mais mettons, Judith, il y a 7 ans, il y a 6 ans. Qui a closé sa première ronde de financement à 1,2 million. Tu sais, veux pas, il y a comme des mathématiques que tu peux pas, tu sais, dans une valorisation d'entreprise, tu peux pas, tu sais, t'as un revenu, t'as une valorisation, il y a des multiples sur le marché, il y a du benchmark. Fait que, tu sais, après ça, tu peux jouer, mais à travers un certain carré de sable. Et cet argent-là que tu peux aller chercher, ben, elle peut te donner seulement certaines possibilités. Moi, définitivement, sur ma première ronde que j'ai closée, j'avais pas de directrice RH, un directeur des finances, directeur des opérations, d'automatisation, etc., etc. Donc, ça donne la possibilité à Francis et son équipe d'avoir accès justement à beaucoup, beaucoup plus d'experts. Puis, tu sais, pour rebondir sur ta question tout à l'heure, est-ce que Francis est un homme d'affaires? Ben moi, je trouve que oui. Pour moi, Francis, je le vois, oui, comme un chef, mais comme un président d'entreprise. Puis, tu sais, justement, cette culture-là du partnership, elle est tellement... Tu sais, moi, les avantages de tout le monde comptent avant les miens. Là. Puis c'est comme dans l'esprit de gang que je trouve mon fun. Fait que oui, tu sais, c'est sûr, un certain que va falloir prendre ces décisions-là communément. Mais pour moi, et pour tous les gens de Coquitte, c'est très, très clair que ça reste Francis qui est... Puis je pense que c'est de là... Tu sais, je pense que c'est un prérequis d'un bon partenariat, tu sais, parce que moi, j'ai absolument besoin que Francis reste aux commandes de cette entreprise-là.
C'est la valeur qu'il apporte aussi.
C'est toute la valeur que lui et son équipe apportent, là.
Je veux vous amener sur le terrain du marché puis des conditions dans lesquelles vous faites ce deal-là quand même. Parce qu'on est dans une drôle de période. La semaine dernière, à notre micro, Charles Milliard, le président de la Fédération des chambres de commerce du Québec, faisait avec nous l'état des gagnants et des perdants potentiels de 2023. Et pour vous, ben, il faut constater que l'inflation, ça veut dire le prix des aliments vous coûte plus cher, donc les marges peuvent possiblement réduire. Le retour au bureau veut dire les gens ont moins de temps pour cuisiner. Je pense au prêt à cuisiner. Là. J'imagine que ça fait en sorte qu'on revoit les habitudes d'utilisation de vos services, Judith. Je regarde vos compétiteurs. Good Food a eu une année difficile. Mm-hmm. Ils ont fermé leur centre de distribution. Ils ont arrêté de livrer des produits en 30 minutes. HelloFresh a perdu 70% de sa valeur. Est-ce que vous faites ce deal-là à un bon moment?
Bien, pour revenir sur quelques points que tu as adressés, tu sais, mettons, l'inflation, nous, dans nos modèles d'affaires, on est vraiment privilégiés parce que, justement, on a le contrôle sur la création des menus, de se baser sur des ingrédients qui sont de saison, donc de travailler en collaboration directe avec plus de 150 fournisseurs québécois, donc local, donc pas de prix de transport, etc., etc. Donc, nos modèles d'affaires sont vraiment faits en conséquence qu'on ne subit pas le coût de l'inflation chez Coquitte, puis nos clients non plus, et chez Menu Extra. Parce que, tu sais, je vais donner un exemple super basique, là, mais si le coût du ketchup augmente une semaine, mais le prix de la mayonnaise reste stable, parce que c'est pas tous les ingrédients qui augmentent à tous les moments, ça fluctue quand même énormément, bien, à ce moment-là, nous, on va travailler avec la mayonnaise au lieu de donner du ketchup.
Je comprends.
Bon, c'est pour ça que c'est pas moi qui est en charge des cuisines, puisque quand Francis parle de bouffe, c'est beaucoup plus éloquent. Mais quand même! Ketchup, mayonnaise!
C'est le fun de mélanger les deux ensemble.
Ajoute un peu de capre, là, ça fait du sauce à saveur québécoise bien connue.
Donc, je comprends ça, sur le fond. L'inflation. Ouais. Fait que ça, on est un peu protégé de par notre modèle d'affaires qui est basé vraiment pour bien performer dans ces situations-là. Après ça, le marché, tu sais, justement, nous, ça fait presque 10 ans qu'on est en affaires. Je pense qu'on a fait vraiment des bons choix stratégiques avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'ambition, mais ça fait en sorte qu'on n'a pas la même réalité que ce qu'on voit, ce qui se passe aussi
sur le marché.
Donc, notre réalité n'est pas du tout la même que celle de peu importe qui d'autre sur le marché.
Ça reste, Judith, que, bon, 2020 et 2021 auront été des années, quand tu vas regarder avec le recul probablement Coquitte, exceptionnelles. L'exception,
tu sais,
des taux de croissance dans les 2-3 chiffres, ça n'a comme pas de bon sens.
Mais je ne sais pas si tu te souviens aussi, mais quand, tu sais, nous, admettons, les 7 premières années de Coquitte, on a vraiment réussi à tripler l'entreprise à chaque année. Bon, tu sais, vous me direz que la première année avec 92 000 de chiffre d'affaires, c'était pas si difficile que ça.
Bien, il fallait toujours bien se rendre là. Moi, je pense, non, au contraire, je pense qu'il fallait les faire, ces premiers 92 000 piastres-là. Mais là, à 4 % de croissance en 2022, on n'est pas dans les mêmes eaux quand même.
On n'est définitivement pas dans les mêmes eaux. Et c'est pour ça que, justement, de se diversifier... Tu sais, moi, quand je regarde Menu Extra, est-ce que Menu Extra peut tripler sur les 5 prochaines années? Définitivement. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que notre stratégie est un peu basée là-dessus. Parce que, justement, tu as cet écosystème-là, tu as cette infrastructure-là de structure, de tout ce qui est, comme on aime l'appeler, le back-end. Mais après ça, c'est vraiment avec l'offre et l'expérience client qui...
Francis, je te retourne la question. Est-ce que dans la liste des points que tu considérais quand tu disais est-ce que je me fais acheter ou est-ce que je continue seul ou est-ce que je vais au marché, est-ce que je vais me financer autrement, il y avait cette espèce de paysage un peu glauque économique qui est au-dessus de nous dans tes considérations?
Ben, c'est sûr que tu sais, quand tu diriges une entreprise, je veux dire, tu prends tout ça en considération. Mais quand je regarde le portrait global de Menu Extra puis sa mission, bon, tout le monde a toujours quelque chose à célébrer, évidemment. Le restaurant, ça coûte cher. Le faire à la maison, peut-être un petit peu moins. Nous, on a eu des super belles années dans les dernières années. Puis, depuis qu'on existe, on a une belle croissance organique qui est considérable. Mm-hmm. Puis il y a une énorme opportunité d'affaires avec Cookit. T'sais. Puis moi, c'est ça que je voyais. Utiliser toute cette data-là, toute cette expertise-là pour développer le marché qu'on a à peine touché encore.
Judith, tu en es à ta quatrième acquisition.
Mm-hmm.
Le Fonds de solidarité FTQ a donné une injonction de capital considérable dans Cookit. Desjardins Capital aussi. Au total, mm-hmm. c'est à peu près 15 millions. Est-ce qu'il t'en reste pour faire d'autres acquisitions? Puis est-ce que c'est ça le plan pour la suite, c'est-à-dire continuer de grandir en trouvant les bons partenaires, on s'entend,
ouais.
mais en achetant du chiffre d'affaires finalement?
Bien, en fait, nous, notre play, c'était vraiment de... on avait moins de capitaux à l'époque que nos compétiteurs. Donc, notre playbook, c'était plus de bâtir une belle masse critique, de bâtir vraiment qu'est-ce qu'on avait en tête, à quoi Cookit ressemblerait. Et ensuite de ça, commencer à pénétrer des différents marchés. Donc ça, on a fait ça, on a la structure qu'on a appris vraiment à opérationnaliser cette business-là, à avoir des beaux chiffres, à avoir des beaux résultats de ce côté-là. Donc là, c'est vraiment ça vers quoi on s'oriente. Là. On est en train de préparer justement le plus...
La suite de ton plan de
s'en aller à l'est et même de descendre un petit peu plus au sud. Là.
Ah oui, donc une percée vers les États-Unis, c'est l'objectif?
Effectivement.
Quand?
L'Ontario, là, on va viser sur les 18 prochains mois d'avoir de la croissance soutenue, puis après ça...
On vise les États-Unis.
Voilà.
C'est un autre gros marché. On a vu Blue Apron, ça ne s'est pas super bien passé hein, quand ils sont allés en bourse et que leurs clients... ont vu qu'il y avait à peu près 50 % de leurs clients qui tournaient sur l'espace de quelques mois.
Mm-hmm.
Ça a quand même donné tout un choc aux États-Unis. C'est un marché qui est plus difficile.
Ah oui, définitivement. Mais tu sais, Blue Apron, ça a été vraiment le poster child de quoi ne pas faire. Là.
OK, c'est-à-dire?
Ben parce que, tu sais, moi, je trouve qu'on juge souvent... tu sais, Cookit, c'est un... Le prêt-à-cuisiner, c'est un modèle d'affaires quand même relativement nouveau. C'est environ une dizaine d'années. Et on juge... Dans différentes compagnies, il y en a qui ont bien réussi, puis il y en a qui ont moins bien réussi. Tu sais, Blue Apron, je me souviens même plus c'était quoi les chiffres, là, mais c'était comme une affaire comme 100 millions de capital US qui ont réussi mm-hmm. à raiser mm-hmm. dans la première année. Tu donnes ça à une gang de kids qui n'ont jamais opéré une business avant, qui ont comme aucun, tu sais, qui ne sont pas du niveau exécutif. C'est sûr et certain qu'avoir eu autant d'argent avec autant peu d'expertise, je me serais plantée royalement, moi aussi. Tu sais, j'ai vraiment eu le temps de bâtir une équipe d'exécutifs, d'aller chercher de expérience, de comprendre comment ça marchait la business, mais d'avoir autant d'argent autant facilement. Puis ils ont eu accès à beaucoup de capitaux parce que justement, ils venaient de grandes, grandes familles, mais il n'y avait pas d'expérience tant que ça. Fait que tu sais, Blue Apron, ça a été vraiment le poster child de quoi ne pas faire.
Puis on apprend des erreurs de ses compétiteurs aussi.
Ah, définitivement. On apprend et on s'inspire aussi. La compétition...
Ben, je vous souhaite bon succès dans ce nouveau partenariat-là. J'ai hâte de goûter à Menu Extra. J'ai
oui,
jamais goûté.
Est-ce que tu connaissais?
Jusqu'à maintenant, je vais être bien honnête, je ne connaissais pas. Cela dit, on a une restriction alimentaire à la maison. Je ne sais pas si ça peut fonctionner quand même, mais il n'y a pas de gluten qui rentre chez nous.
Il y a des options sans gluten.
Ah, c'est merveilleux.
Ça va nous faire plaisir de cuisiner pour toi.
Ben, le gros méchant
gentil.
Gluten.
Oui, c'est ça. Merci, Francis. Merci, Judith, d'avoir été avec nous. Et je nous fais le souhait qu'on se reparle dans quelques temps puis qu'on voit ensemble ce qui aura fonctionné, puis les apprentissages aussi de ce que vous avez fait de ce partenariat-là. Je pense que nos auditeurs l'apprécieront aussi.
Parfait.
Avec grand plaisir.
Vous êtes les bienvenus.
À
bientôt.
Annuellement.
C'est merveilleux. Merci à vous deux.
Merci.
Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hélène Béjan.
Il y a une tendance qui s'installe dans l'économie, c'est que l'économie canadienne va plutôt bien et solide, mais l'économie du Québec, elle, montre des petits signes de récession. Bonjour Hélène Béjan.
Bonjour, Laura.
Qu'est-ce qui se passe? L'économie du Québec, donc, va moins bien, mais l'économie canadienne, elle, est encore forte. Explique-nous un peu cette dynamique-là.
Oui, concernant l'économie canadienne, la croissance se poursuit à un bon rythme. On l'a vu avec les résultats récents. Et le Québec, déjà, a eu quand même un troisième trimestre négatif avec une baisse de 1,4% selon les derniers chiffres. Donc, ça a un contraste très important avec le Canada. Qu'est-ce qui se passe? Bon, évidemment, le Québec actuellement ne profite pas du regain du côté de la production des matières premières, comme c'est le cas dans plusieurs province productrice de pétrole notamment. Donc, même si les prix sont quand même élevés, même si les prix des matières premières ont un peu baissé récemment avec les suppléments de l'économie mondiale, il reste que le prix des matières premières reste quand même assez élevé, notamment le pétrole. Et ça, ça profite à plusieurs provinces, notamment l'Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve. Donc, ça gonfle les investissements de ces provinces-là et également leurs exportations. Et le Québec, qui est moins concentré dans ses industries, n'a pas les effets bénéfiques associés au rebond des matières premières.
Mmh. Donc, si on se compare, Hélène, avec les autres provinces canadiennes, si on regarde province par province ou région par région, si tu veux, il y a des régions qui s'en sortent mieux que le Québec, là.
Oui, effectivement. Comme je mentionnais, les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan, Terre-Neuve ont un excellent momentum économique. Par contre, du côté de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, ben, du côté du marché de l'habitation, c'est beaucoup plus difficile. On sait que les provinces, ces provinces-là ont connu un recul important des prix, donc une chute d'environ 15 % et plus depuis le sommet atteint en début de 2022. Mm-hmm. Donc, c'est certain que toute la question du secteur de l'habitation a avantage aussi les provinces productrices de pétrole parce que toute la question de la croissance de la population, de l'immigration est davantage au rendez-vous, par exemple, en Alberta. Donc, ça fait en sorte que les marchés de l'habitation sont moins affectés dans ces provinces-là.
J'aimerais ça que tu nous parles de la croissance de la population. Comment va l'immigration internationale ou même interprovinciale? Est-ce qu'il y a des provinces qui s'en sortent mieux que d'autres sur le plan de l'immigration?
Oui, absolument. On sait que l'immigration internationale a repris quand même en force depuis l'arrêt, disons, la pause qu'on a observée pendant la pandémie. Donc, les provinces qui accueillent généralement plus d'immigrants, toute proportion gardée, comme l'Ontario, la Colombie-Britannique, sont quand même assez gagnantes sur ce plan-là. Et du côté des mouvements entre les provinces, pendant la pandémie, il y a un fort mouvement de déplacement vers les provinces atlantiques, les provinces maritimes, un prix du logement qui est abordable, le télétravail faisant en sorte que c'était avantageux pour beaucoup de gens de se déplacer. Ce qu'on observe, par exemple, depuis un certain temps, c'est que c'est l'effet inverse qui se produit. En fait, le pouvoir d'attraction des maritimes avec le retour au travail en mode hybride a stoppé le mouvement et aussi l'attrait pour les provinces qui sont productrices de matières premières, notamment le pétrole, sont beaucoup plus attrayantes. Donc, on observe un mouvement de l'Ontario vers l'Alberta, par exemple, question de perspective de salaire, perspective d'emploi. Donc, les tendances ont beaucoup changé au niveau interprovincial et dans le cas du Québec, étant donné qu'il y a quand même une certaine barrière au niveau de la langue, là, c'est pas nécessairement tous les Québécois qui sont bilingues suffisamment pour travailler dans l'une ou l'autre des langues. Donc, évidemment, il y a moins de mouvements différents du côté du Québec, mais pour les autres provinces, le pôle de croissance de l'Atlantique ou des Maritimes s'est déplacé vers les provinces productrices de pétrole.
Merci, Hélène, de ce tour d'horizon-là. C'est le fun de parler des autres provinces. On a le sentiment parfois qu'on est tourné vers le Québec, mais c'est intéressant d'avoir une perspective sur ce qui se passe ailleurs au pays.
Merci beaucoup, Laurent.
On se reparle bientôt. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Pour votre info est un balado indépendant présenté par Desjardins. Notre recherchiste est Philippine de Tinguy. Nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal. Steve Cordeau est notre technicien cette semaine. Nos épisodes sont disponibles sur C23, la plateforme de balado de Cogeco Média, ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Therrien. Merci d'avoir été avec nous. On se reparle la semaine prochaine.